15h33, c'est la dernière avant l'été de Gravel dans le retour à Boulevard 102.1. Merci d'être des nôtres. 418-971-1021, s'il y a quoi que ce soit sur les routes. Et d'ailleurs, vous avez fait signe dans les dernières minutes, Véro.
Merci de compenser pour le 5-1. Je pense que la personne aux réseaux sociaux là-bas est en vacances aujourd'hui. Je vous parlais de problèmes sur la 20 dans les deux directions, entre l'avenue des Églises et Taniata. C'est un accident en direction est. C'est trois voitures qui sont impliquées. Ils sont dans l'accotement de gauche. Ça fait à peu près une trentaine de minutes que c'est arrivé. Donc, en direction ouest, le problème, c'est les voyeurs qui regardent pourquoi il y a autant de véhicules arrêtés dans l'autre direction. Donc, au moment où on se parle, c'est de la congestion qui est suffisante pour qu'on vous le mentionne.
Hey, le lutteur Darren Drozdov, qui est décédé à l'âge de 54 ans, les gens de mon âge l'ont peut-être connu sous le nom de Droz. Et si vous avez regardé le documentaire Beyond the Mat, c'était le lutteur qui était capable de vomir sur demande.
Ah, voyons,
c'est dégueulasse. Et Vince McMahon lui demandait de vomir sur une poubelle, puis il voulait l'appeler Puke. C'est ça qu'on voit dans le documentaire. C'est jamais arrivé. Mais Droz est devenu célèbre parce qu'il a été victime d'une tragédie sur le ring. Tu sais, quand on vous dit la lutte, c'est arrangé, mais il faut que tu fasses attention. Un gars qui s'appelle D'Lo Brown qui l'a pris pour faire ce qu'on appelle un powerbomb, comme Kevin Owens nous a dit cette semaine, tout le monde en fait des powerbombs, là. Mais quand tu manques ça, puis que l'atterrissage du lutteur est raté, ben ça peut avoir des conséquences tragiques, et ça a été le cas de Darren Drozdov qui s'est cassé le cou et qui n'a jamais remarché. Donc, lui, sa carrière s'est terminée là et il n'a jamais été capable de remarcher après ça. Mais c'est resté un gars, tu sais, un bon vivant, là, parce qu'on le voyait beaucoup dans les entrevues, les documentaires, tout le temps sourire d'en face. Moi, tu m'empêches de marcher, je pense que je bougonne jusqu'à la fin des temps, là. Mais
en
lui,
fait, on t'empêche de quoi que ce soit, tu bougonnes jusqu'à la fin des temps.
Ouais, d'ailleurs, ouais, c'est ça, je sais que j'ai bougonné aujourd'hui, là. Ça me prend pas grand-chose pour bougonner, j'étais un bougonneux, là.
Mon pH se déstabilise assez vite.
Darren Drozdov n'était pas un bougonneux et il est salué par tout le monde aujourd'hui. The Rock, Dwayne Johnson, avec qui il a partagé les cartes de lutte pendant quelques années lui a rendu un bel hommage, entre autres.
Est-ce que son décès a un lien avec sa paraplégie ou pas pantoute?
Écoute, je ne sais pas. Okay. Il n'y a pas beaucoup de détails, là. C'est davantage des hommages présentement, là, que je suis en train de lire sur mes fils de réseaux sociaux. Véro, peut-être faire un rappel. Les négociations n'ont toujours pas eu de conclusion dans le cas du RTC. Évidemment, là, c'est un dossier qu'on surveille parce que les prochaines heures sont cruciales.
Donc, on a un problème avec les négociations au moment où on se parle. En fait, c'est pas un problème nécessairement, mais on a un décompte. On a jusqu'à 14h30 demain matin s'entendre.
Je dirais qu'on a un problème.
Puis, dans le fond, on a parlé un peu plus tôt aujourd'hui à Nicolas Girard, qui est le président directeur général du RTC. Lui disait que les négociations allaient bien, mais que toutes les heures comptaient. Si on n'arrive pas à s'entendre d'ici 4h30 dans la nuit de vendredi à samedi, c'est un bris de service complet pour les services du RTC.
Je l'ai senti ébranlé. Et évidemment, il ne nous le dira pas directement, mais je pense que ça a ébranlé beaucoup les dirigeants du RTC lorsqu'on a décidé que l'autobus n'était pas un service essentiel. Et quand tu passes des années et des années à dire aux gens de laisser la voiture pour prendre l'autobus, bien normalement, l'autobus devrait devenir de facto un service essentiel. Sauf que là, c'est les deux messages en même temps. Puis il y a du monde qui risque, à partir de demain, de se retrouver le bec à l'eau, et c'est malheureux. Hey, c'est la dernière, puis c'est vendredi, fait qu'étant donné que c'est les deux en même temps, ben de retrouver nos vieux complices d'avant la fin de semaine pour terminer notre saison en beauté, c'est un plaisir. On va parler à Pierrot tantôt, et là, Émilie du Chaloux Grand Marché est avec nous autres pour compléter la saison. Salut, Émilie.
Bonjour.
Comment ça va?
Deux, ça va top shape.
Hey, là, c'est le fun aujourd'hui parce que habituellement on arrive avec plusieurs suggestions de produits. Mais aujourd'hui, on fait ça chill. On discute de brou autour d'une excellente bière.
Et ben, parlons de ce beau produit-là. Oui. Cellier 2022 de la gang de Trou du Diable. Trou du Diable, dans les formats 750 ml, il y a des petits bijoux là-dedans, là. Prenez le temps de lire ce qu'il y a sur les bouteilles parce que c'est tout le temps des trucs audacieux, raffinés, qui sortent de l'ordinaire. Donc, n'hésitez pas à aller vers ce type de produit-là. Là, je vous ai apporté leur bière du 17e anniversaire. C'est pas une nouvelle bière. Ça fait un petit moment qu'elle est disponible. J'en avais une qui traînait dans le frigo à maison.
Oh.
Fait que j'ai apporté ça pour la partager avec vous. Donc, je vous parle d'une surfruitée fermentation spontanée. Donc, c'est-à-dire qu'on a, on laisse la levure naturelle créer, manger les sucres du produit puis développer son alcool de manière complètement spontanée.
Ça, ça fait une bière sûre automatiquement, ce procédé-là, ou à peu près?
Oui, il va y avoir vraiment des levures sauvages. T'sais, on parle de, des trucs sauvages, donc souvent, ça va être les levures qui vont être déposées sur les fruits, et sur dans l'air ambiant aussi, là où reposent les barriques, des trucs comme ça. Donc oui, il va toujours avoir un petit côté acide à différents degrés. Des fois, c'est très acide.
Ouais.
Des fois, c'est un petit peu plus dosé.
Là, c'est un bel entre-deux,
on
je trouve.
On parle d'un beau dosage dans celui-là, effectivement.
Oui. Elle est très canalisée parce qu'habituellement, avec ce genre de saveur-là, tu as l'impression que ça te remplit la bouche au grand complet.
Ça squeeze un peu, là.
Oui, oui. Je dirais que pour les gens qui ont toujours été rebutés là, par les bières sûres ou les bières à fermentation spontanée, là, celle-là est plus équilibrée que ce qu'on voit habituellement dans ce genre de produit-là. Fait que ça vaut le détour.
Oui, donc il y a une belle douceur, un 5 % d'alcool. Ils ont travaillé en collaboration avec le Cidre Intrus qui sont à Québec.
Oh, yes.
Donc, ils ont récupéré là-bas des barriques, puis ont fait de l'assemblage, récupéré la pelure de pomme. Carrément, j'allais dire des peaux de raisin, mais non, pas pour cette fois-ci, on est plus dans la pomme. Donc, il y a un pétillant naturel qui s'installe aussi au niveau de la fermentation. C'est une bière que vous pouvez laisser maturer si vous voulez qu'elle prenne un petit peu plus de caractère. Gênez-vous pas de le faire sans aucun doute. Déjà 2022 pour celle-là, donc elle a déjà un petit peu d'âge derrière la cravate. Donc, mais c'est un produit qui est disponible actuellement encore au Chalouse Grand Marché et Beauport.
Wow.
Donc, gênez-vous pas d'aller mettre la main là-dessus.
C'est un bel enfant entre la bière et le cidre.
Oui,
je
vraiment.
Trouve que c'est... Tu sais, mettons, dans votre couple ou dans votre gang, il y en a qui sont team cidre, il y en a qui sont team bière. Ça, tout le monde va s'entendre avec celle-là. Mm. Vous n'avez pas le temps de la noter sur notre Instagram, dans les stories. Vous l'avez, puis vous avez toujours en notre petite bulle de bière 2023 toutes les suggestions qu'Émilie nous a fait au fil du temps. Fait que vous cherchez à vous trouver de nouveaux produits pour le long week-end à boire. Devant la télé sous la pluie. Vous avez accès à tout ça.
Ouais. Hey Véro, on va parler avec Émilie des tendances des prochains mois et des prochaines années. Puis je pense, Émilie, premièrement, tu as amené beaucoup de chiffres puis beaucoup de stats.
Ouais.
Le comportement est en train de beaucoup changer, ça se peut-tu, chez
vraiment
les consommateurs québécois?
Bien, oublions pas qu'on vient de traverser un moment de l'histoire assez particulier là, dans les 3-4 dernières années, on peut se le dire.
Ben du monde qui ont commencé à boire en passant.
Oui, bien, justement, tu sais, je suis allée vraiment chercher des statistiques au niveau de l'Institut national de la santé publique du Québec, les statistiques au niveau du Canada, au niveau des États-Unis aussi, parce que on a toujours une vague américaine qui s'installe, puis ensuite, on va sentir la fin de la vague qui va venir nous submerger au Québec, aussi au Canada définitivement, donc avec les tendances, les goûts, les saveurs, les habitudes de consommation, etc. Donc, on ne peut pas balayer ça du revers de la main. Les Américains ont clairement un impact sur ce qu'on va boire dans les prochains mois.
Ils nous influencent malgré tout. T'sais, on a l'impression qu'on fait donc bien des beaux produits puis qu'on est donc bien révolutionnaire, mais mine de rien, on se laisse toujours influencer par nos voisins.
Là. Absolument. Donc, évidemment, pour faire un petit wrap-up rapide là, de la COVID, évidemment, donc il y a 24 % des gens qui disent que leur consommation d'alcool a augmenté pendant la COVID. On est encore en train de comptabiliser les impacts, mais aussi surtout de voir le retour à la réalité, comment qui se fait. Donc, 2022, oublions-le pas, on était encore quand même pandémie vers la fin d'eux, mais quand même, donc 2023, les chiffres, il est un peu trop tôt pour avoir vraiment l'espèce de stabilité là-dessus puis de voir comment le consommateur se comporte à 100 %. Mais définitivement, les choses ont changé. Donc, au Québec, évidemment, il y a des petites stats rapides. Là. Donc, comment on calcule par capita? Là? Actuellement, les chiffres de 2021-2022 disent que 8,4 litres par capita. Donc, c'est des gens de 15 ans et plus. Donc, la consommation par personne au Canada.
8,4 litres, c'est sur quelle période à peu près?
Entre 8 heures puis 10 heures ce soir.
Un gars qui tombe en vacances.
Oh yes!
Donc, en fait, ça va être vraiment sur une année. Carrément.
Okay.
Donc, la consommation annuelle, tout simplement. Puis, il calcule vraiment au niveau de l'alcool pur. Donc, vraiment pour faire un équilibre, d'être sûr d'englober tous les types d'alcool ensemble. Donc, carrément. Donc, la tranche d'âge qui consomme le plus, quand même, il y a une... C'est quand même presque à égalité. Les 18-24 sont ceux qui... donc, 89 % des 18-24 consomment de l'alcool, tout type confondu toujours. 25-44, on est à 87 % 45-64, 85 % Fait qu'on peut dire que c'est quand même à peu près similaire.
C'est la population active, dans le fond. Oui.
Effectivement. Mais faire attention à ça, ça veut pas dire que ces gens-là consomment à outrance. Ça peut être juste si tu bois un verre dans le temps des fêtes, puis un verre à ta fête, ça compte quand même.
T'es un consommateur,
oui. T'es un consommateur.
C'est selon les tranches d'âge que tu nous as dit, les jeunes vont peut-être plus sortir, tandis que les vieux, ça va être avec le repas. Fait que oui, c'est des types de consommation différents, mais c'est des années où tu consommes d'une manière ou d'une autre.
Exact, exact. Donc voilà. Alors, il y a toujours aussi la firme Nielsen qui est vraiment un joueur important dans tout ce qui est de comptabilisation, de vente-scan en magasin, tout ça. Puis il y a des brasseries qui vont acheter, puis des entreprises qui vont acheter ces statistiques-là à chaque année pour voir c'est quoi les tendances, comment je me positionne face aux consommateurs, qu'est-ce que je vais brasser dans la prochaine année. Mm-hmm. Donc, eux, ils ont vraiment sorti des tendances là, au niveau de tout ce qui est d'habitudes qui sont en train de changer. Donc, si je regarde aux États-Unis, bien, je vais vous dire là, mondialement là, les tendances qui s'en viennent. Déjà été 2023, donc au Québec, ça va suivre, évidemment, ça s'installe déjà, le sans-alcool. On en parle souvent,
ça, hein?
Mais le sans-alcool, les amis, là, c'est ce qui est en train de prendre les plus grandes parts de marché. C'est la hausse a été la plus importante là-dedans. Donc,
c'est capoté parce qu'à un moment donné, quand on parlait du sans-alcool dans les chroniques bières, on disait « Ah, oh, pour les femmes enceintes ou vous faites une période de sobriété. » Là, c'est plus ça.
C'est pas juste une femme enceinte et un alcoolique anonyme. Là.
Non,
non, exact.
C'est tout type de consommateur confondu qui va choisir à un moment donné « Je veux un breuvage qui goûte. » Faut que je gère ma consommation d'alcool, ma consommation de calories ou peu importe, puis ils vont se tourner vers les sans-alcool qui, maintenant, là, ont des goûts, peu importe le type de breuvage, puisque tu as de la bière, mais tu as des prêts à boire maintenant qui sont sans-alcool, qui se rapprochent dangereusement de ce qu'on boit quand on boit un vrai cocktail.
Aussi,
là.
Qui réagit en premier? Mettons qu'on voit ça, là. OK, la tendance est aux bières sans-alcool. C'est-tu les détaillants comme vous autres qui se virent vers les micro-brasseries? Hey, faites-nous du stock sans-alcool, là, parce qu'on le voit d'un chiffre, on va en avoir besoin. Ou c'est les brasseurs qui regardent en premier puis qui se disent « OK, la tendance est là, on s'en va là. » Des fois, ils sont un peu plus artistes, là, ils se décident de faire des pilsners, même si c'est pas d'intendance, tout ça. C'est bien bon, moi, je suis bien content. Mais qui donne le premier son
qui
de cloche?
Qui dit que t'as la danse?
Ouais, c'est ça, exact.
Ben, Nielsen en est un très bon, d'ailleurs. Mais tu sais, pour être un peu à l'avant-garde aussi, c'est de voir par quoi je vais me faire influencer. Est-ce que nous, on lève des flags aux brasseries? Oui et non, tu sais, je te dis, on y va avec vraiment qu'est-ce que... Puis tu sais, le marché, meilleur exemple, dans les trois chaloux, on a tellement une clientèle complètement différente. Fait qu'il faut être à l'écoute, premièrement, qu'est-ce que mon consommateur a envie. Puis surtout, de ne pas laisser un type de clientèle de côté, juste au dépend de ce que nous, on aime. Tu sais, donc de dire, même si moi, j'aime juste les sortes impériales,
je peux pas tasser les IPA, là.
Fait que vous pouvez pas tenir le même inventaire dans les trois chaloux à Saint-Émile, à Beauport et au Grand Marché parce que c'est pas le même consommateur.
Exactement. Il y a pas les mêmes envies, il y a pas le même portefeuille. On va le dire comme ça aussi, très sincèrement. Il y a pas le même portefeuille non plus selon, soit le type de... Oui, vas-y,
c'est drôle, j'avais déjà entendu ça pour le commerce de détail. T'sais, mettons Place Sainte-Foy puis Galerie de la Capitale, c'est pas la même clientèle. Fait que les boutiques qui se retrouvent dans ces deux endroits-là ont pas le même genre d'inventaire. J'avais jamais pensé que c'était la même chose pour vous autres.
Oui, oui, définitivement. Donc, qui va lever les flags en premier? Je pense que, tu sais, on va regarder un peu ce qui se fait en Europe. Tu sais, un peu comme la mode. On va se laisser influencer par les plus grands de ce monde, si on veut, puis ensuite de voir est-ce que ça colle à mon marché. Une couple de petites tendances là, qui s'en viennent, justement. Donc, le sans-alcool, on en a parlé. Donc, tout ce qui a trait aussi à le bien-être, le bien-vivre. Donc, plus faible en glucides, plus faible en alcool, évidemment, aussi, sans tomber 100 % à zéro alcool. Mais tous des produits importés. La tequila a la cote ces temps-ci. Les Mexicains doivent être complètement fous parce que les lagers mexicaines ont la cote.
OK.
Si vous regardez un peu dans les brasseries du Québec, il y a des brasseurs, brasseuses qui ont eu une petite vision là-dessus. Puis justement, un peu comme tu disais, Denis, qui ont tendance à regarder ce qui est dans le radar, un peu dire, OK, qu'est-ce que j'ai envie de brasser? Qu'est-ce qui s'en vient comme tendance? Fait que des lagers mexicaines au Québec, on en a des très belles. Donc, des bières qui vont être axées sur le maïs. on va vraiment mettre en valeur le maïs, alors que des fois, c'est une céréale qui est un peu mise de côté parce que c'est vraiment associé plus aux bières de grande consommation parce que c'est une céréale qui est vraiment peu dispendieuse.
Puis tu parlais des bières à faible teneur en alcool. Moi, je le remarque depuis le début de l'été, là, les microbrasseries poussent beaucoup leurs produits session, leurs produits nano, alors qu'avant, tu disais, bon, j'ai cette belle grosse IPA remplie d'amertume à 7 % d'alcool et j'ai ma session IPA à 3%.
Oui, dans l'ombre.
Là, c'est l'inverse.
Oui, absolument. Hein? On le sent énormément. Donc, si on continue vers les tendances qui s'en viennent, les cocktails, bien sûr, ça continue.
Ben ça, on le voit déjà. Hein? Ouais.
Ça continue. Les prêts à boire, donc aux États-Unis, c'est RTD, donc les ready to drink. Ça continue de grimper. On y va à toutes les sauces là-dedans. On va y aller avec des assemblages aussi, des trucs comme ça. Les vins, bien sûr, continuent. Mais tout ce qui est d'importation, on parlait tantôt des produits mexicains, des trucs comme ça. Mais aussi le raffinement des produits. Le consommateur est de plus en plus informé, veut avoir de plus en plus le suivi de qu'est-ce qu'il y a dans mon verre, qu'est-ce que tu me sers, qu'est-ce que j'ai dans ma bouteille.
Ça vient de où? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans?
Exactement.
C'est quoi les valeurs nutritives? Ça,
combien de glucides
ici,
dans ma bouteille de vin? Donc, on va aller aussi vers plus des produits premium. Donc, les gens vont avoir tendance à payer un peu plus malgré
la
situation.
Malgré l'inflation, ben
exactement.
Oui.
On aurait pu carrément penser l'inverse, mais les gens qui ont un portefeuille plus important et les gens les plus éduqués sont les gens qui consomment le plus aussi. Par préjugé, on aurait pu penser l'inverse, mais plus les gens ont de l'éducation, plus ils vont consommer. Donc, ces gens-là ont plus de moyens. Ils consomment des produits un petit peu plus raffinés, plus premium, super premium, donc avec des produits un peu plus importés, plus rares à trouver.
Je sais pas si c'est l'atout. Tu sais, à un moment donné, on pouvait pas aller au restaurant, simplement. Fait que tu t'es mis à te faire des soupers chez toi, puis avec l'inflation, avec le coût des restaurants, tu dis, hey, je paye au restaurant une bouteille à 45$ que je payais 15$ à SAQ.
Ben oui.
Je peux payer une bouteille à 20$. Je peux payer un peu plus cher en cuisinant à la maison. Puis je sais pas pour vous autres, mais moi, ça, je l'ai entendu beaucoup. Fait qu'on est beaucoup moins à reculons quand on voit un prix qui est un peu plus élevé pour justement un produit où tu vas payer pour la qualité qui vient avec.
Exact. Tu vas savoir aussi, tu vas peut-être informé avant. Là, tu vas aller chercher le petit produit que tu avais envie d'un petit producteur. Donc, voilà. Fait qu'il y a des belles tendances là-dessus. Parlons un peu du Canada puis du Québec, si vous voulez. Écoute, je fais un petit lien quand même. Mais d'après vous, quel est le type d'alcool le plus consommé au Canada encore aujourd'hui?
Je pense que c'est la bière.
Je vais y aller avec la bière.
Effectivement. Ouais. La bière est encore numéro un. Ça s'effrite. Ça continue à s'effriter depuis les dernières années. Il y a des parts de marché qui se perdent toujours. Est-ce que la bière va mourir? Je pense pas. Est-ce que je suis inquiète pour les brasseries, microbrasseries qu'on aime tant? Oui et non. Certaines vont survivre. On s'en parle souvent quand je viens vous voir. Mais
est-ce que ça explique la multiplication des types de produits d'une microbrasserie? Justement, tu vas en voir qui vont aller s'allier avec des cidreries, avec pour faire des prêts à boire. On a parlé beaucoup des sorbières dans les dernières semaines.
Ça, de plus en plus, à chaque semaine que je viens vous visiter, il va y avoir de plus en plus de variété dans ce que je vais vous apporter parce que aussi, c'est ce que les gens ont envie de découvrir. Mmh. Donc, voilà. Donc, bière toujours numéro un au Canada. Au Québec, qu'est-ce qu'on boit le plus comme type d'alcool, selon vous?
La bière.
La bière aussi.
Le vin.
Hein?
Pour vrai?
Le vin a commencé à prendre plus de parts de marché.
La SAQ vous dit merci.
Ça valait la peine qu'ils rénovent.
Et aussi en Colombie-Britannique.
Grâce à vous, le premier ministre Legault donne des augmentations de salaire à tout son gouvernement.
Donc, le vin prend de plus en plus de place. Ouais. On commence à faire des vins de plus en plus intéressants au Québec aussi.
Tellement,
tu sais,
hein?
Tout le fait d'encourager local, de travailler un peu là-dessus, d'être plus près du produit à un rayon de tant de kilomètres de chez soi. Ça a eu son impact aussi. La pandémie a apporté ça de bien aussi à travers tout ça. Donc, il y a vraiment un éveil des consciences dans toutes les sphères, je vous dirais, de la consommation d'alcool. Donc, mieux vivre, comme on disait, encourager le petit producteur d'à côté, évidemment. Les hausses marquées, évidemment, le vin au Québec, comme on le disait il y a quelques instants. Les cidres et les coolers. Donc, on parlait des prêts à boire. Les cidres au Québec, regardez ça, ça s'en vient. Checkez dans le rétroviseur. Les cidreries n'ont pas dit leur dernier mot. C'est sûr qu'ils partent très en bas de la gradation là, des habitudes de consommation.
Toi, t'en tiens beaucoup au grand marché des cidres.
Chaloux-Beauport ont une belle sélection. Encore là, comme on disait, carrément pas la même que nous au grand marché. Les gens consomment pas le même type de produit. Et au grand marché, moi, j'ai des cidreries aussi dans le grand marché. Mm-hmm. Donc, on essaie de travailler à bras-dessus en belle collaboration aussi avec eux autres. Donc, voilà. Fait que les spiritueux, évidemment, aussi sont en belle hausse. Mais, tu sais, Actuellement, dans les statistiques, ils intègrent tout ensemble cidre, couleur, prêt à boire. Donc, éventuellement, on va avoir une segmentation de ça, de dire les prêts à boire, c'est quoi le pourcentage, etc. Donc, tu sais, je pense pas que, comme je disais tantôt, que ça va être la mort des microbrasseries au Québec. Je penserais pas ni dans le monde, tout ça. Il y a quand même un amour pour la bière qui demeure, qui perdure aussi.
Mais t'as comme une condamnation à suivre les tendances de façon scrupuleuse.
Effectivement.
Parce que j'ai l'impression que tu manques deux courbes en ligne, là, puis t'es dans le champ, littéralement. Puis
oui.
J'en vois faire des efforts incroyables depuis 2 ans, 3 ans, justement, pour arriver l'été des bières légères. OK, on a une nano IPA, on a une session IPA, on a une bière, puis c'est placé à l'avant-plan, alors qu'il y a quelques années à peine, c'était un marché qu'on laissait aux gros vendeurs américains, puis nous autres, on disait, ouais, nous autres, on n'est pas faible en calories, mais on a une bière qui va t'en mettre littéralement plein la gueule, là, tu sais, l'IPA impériale, la stout et ainsi de suite, alors que là, on a commencé à jouer beaucoup sur cette carte-là,
parce qu'on
regarde les tendances, j'imagine, puis on veut se placer là-dedans. Là.
Oui, donc même, j'ai vu certaines microbrasseries commencer à inscrire le nombre de glucides sur la canette, le nombre de calories
sans que ce soit obligé, ben
sans
oui.
Sans avoir la valeur nutritive en arrière du produit, parce que n'oublions pas, les seuls qui sont obligés de le mettre, c'est soit les bières sans alcool ou les bières sans gluten.
Mm-hmm.
Donc, dans les bières régulières, vous n'aurez pas le moyen, à moins d'écrire à la brasserie puis qu'ils aient envie de vous partager leur grand secret, vous n'aurez pas de manière de savoir combien il y a de glucides dans votre bière ou de calories, malheureusement. Donc, voilà, c'est un petit peu le portrait. Ça reste quand même positif, tu sais, faut évoluer. Toute entreprise, si tu n'évolues pas, tu meurs. Alors voilà, ça s'applique quand même à tout type de produits là, de commerce de détail.
Mais je pense que les gens sont curieux. Moi, je le constate à chaque fois que tu nous présentes un nouveau produit, tu sais, les réactions, les questions, puis ainsi de suite.
Remonte à, je sais pas, peut-être une dizaine d'années, quand on parlait de microbrasserie, c'était Heurte de la bière avec des motons.
Unibrew! Les Unibrew se faisaient, hey, votre bière foncée qui goûte la bouette, laissez
la
faire.
De foin.
On riait de ça. Puis, tu sais, d'un bye-bye, ils riaient de ça aussi. Tu sais, c'est pas ça de la bière. Puis, voyons donc. On part de là. Là, on est rendu ailleurs. Tu sais. Puis, en même temps, je pense que la consommation a évolué aussi. Dans le temps, tu revenais de travailler de l'usine, t'étais cœuré de la vie, t'étais brûlé, tu vidais ta dose pour être capable de dormir, puis après ça, tu passais à autre chose.
On consommait beaucoup. Ça, peut-être qu'au bout du compte, ça coûtait le même prix. Là, on consomme plus pareil pantoute.
Ben, je pense plus qu'on boive pour se saouler tout le temps. Moi, je pense que souvent, on boit par goût, parce qu'on trouve que la bière est bonne, parce qu'on veut expérimenter des nouvelles saveurs. Puis au lieu de passer à travers un six-pack le soir, ben, tu vas te prendre une ou deux bières que tu vas déguster.
Oui, les intentions sont plus les mêmes. D'ailleurs, justement, dans mes petites recherches, je lisais avant. L'alcool était la base des rassemblements sociaux. Donc, c'était d'emblée, j'ai de quoi asseoir, faut que j'aie de l'alcool qui vient avec ça.
Ouais.
Aujourd'hui, surtout la génération Z, donc les 25 ans et moins, ils vont plus aller vers du sans-alcool. Ils ont moins un attachement particulier avec l'alcool versus les autres générations vieilles. Et surtout, sont influencés par le mouvement de bien-être aussi, tout ça qui a trait avec toutes les habitudes de consommation.
Fait que même ceux qui n'ont pas les clés du char peuvent arriver avec de la sans-alcool aussi.
Ils ne se feront pas tirer des roches.
Le monde a changé. Où est-ce qu'on est rendu?
C'est la beauté du truc aussi. Il y a une espèce d'acceptation sociale. Tu sais, avant, c'était comme, tu ne bois pas à soir.
Hey, on avait l'impression de se faire juger.
Ça a changé pas mal. Ouais.
Oui, effectivement. Je pense que je l'ai vu. Je pense que la pandémie a apporté ça aussi. De dire non, garde, à soir, je ne bois pas. Je saute un tour ou je ne bois pas en début de semaine. Mm-hmm. Je bois juste les week-ends. Il y a moyen d'avoir du fun pareil.
T'sais, avant midi, je me garde un petit gin.
Oui, c'est ça.
C'est ce genre d'exemple-là. Je te comprends. Je te suis.
Tant que
je
n'ai pas mangé mes œufs bacon, je n'ouvre pas de pinte.
Hey, Émilie, merci beaucoup.
Merci à vous.
Avais-tu des trucs dans ta glacière?
Je sais pas.
Tantôt, elle était terrorisée que j'ai ouvert la glacière.
Ouais, elle veut pas que tu fouilles dans sa glacière. Moi non plus, je veux pas que tu fouilles dans sa glacière.
C'est pas mon genre de fouiller dans la glacière des autres. Voyons, je sais vivre.
Alors, pour notre dernière vraie réunion d'équipe, disons ça comme ça, j'ai apporté des beaux boires pour vous autres. Continuons avec le trou du diable pour Véro. On a goûté ça.
Je le connais, elle.
Oui, écoute.
Le coq.
Est tellement bonne. On a eu une petite réunion d'équipe avec ma gang du Grand Marché récemment, puis ils ont décidé de la sortir en petit format, 330 ml. C'est parfait. Elle est magnifique. Je parle du coq, donc encore trou du diable. On parle de bière d'assemblage, quelque chose de funky. La cerise est en valeur dans ce produit-là, fait qu'on va aller chercher quelque chose qui ressemble à une crique, donc une bière d'inspiration belge, mais avec un bon petit côté sauvage au travers. Alors voilà,
merci
pour toi, ma chère. Denis,
oui.
J'ai ouvert mon cellier.
Mon Dieu Seigneur!
Donc, je t'ouvre mon cœur.
C'est bien dit.
Alors, j'ai sorti des boulamites, deux bières. La poussière vient avec, je suis désolée. Donc, péché mortel, Dieu du ciel.
Je viens de voir le bouchon.
Barrique de Jameson.
Ouais, mon Dieu, il en reste de ça.
Il en reste dans mon sous-sol, ouais. Mon cher. Donc, 9,5% de bonheur. La péché mortel en fût de Jameson.
Faut que je t'avoue.
Vas-y.
Je voulais m'en garder.
Pas été capable.
Est trop bonne. Pour vrai, c'est un alliage extraordinaire.
Puis ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont fait l'inverse aussi.
Oui,
hein? Ils
oui.
ont barriqué le Jameson en fût qui avait accueilli la péché mortelle. Donc, c'est un coup de circuit sur toute la ligne.
Une très belle collaboration.
Elle a déjà 3 ans dans le corps.
Ça va être bon, ça.
Donc, elle ne se rendra pas à 4 ans.
Wow, ah ouais, tu penses?
Merci beaucoup.
Ça se peut qu'elle se rende pas à la semaine prochaine.
Ça se peut qu'elle se rende pas à Confédération.
Non, c'est ça que tu me dis.
Elle ne fêtera même pas à la fin du Canada.
Non, on va déménager avant.
Je te dis, ça se peut qu'elle soit bu.